Tout d'abord, Frédéric, au nom des collègues de l'équipe, en effet, dont une partie est présente aujourd'hui, on voulait te remercier, parce que c'est vraiment un plaisir pour nous d'intervenir sur les questions d'enseignement de l'écriture. D'autant plus qu'on a quand même l'impression, je dis « on », je vais peut-être dire « j'ai l'impression », on a l'impression que dans le contexte actuel, l'écriture est parfois un peu mise de côté au profit de la lecture. Quand je dis ça, je fais par exemple allusion aux évaluations nationales début CP, CE1, dans lesquelles, visiblement ça ne vous a pas échappé, il n'y a rien sur la lecture. Sur l'écriture, pardon. Beau lapsus, hein, voilà. Mais c'est aussi, par exemple, des discours comme 100% de lecteurs à la fin du CP, hein, ou même les évaluations internationales sur l'écriture, les évaluations internationales, je vais y arriver, où, justement, en termes de résultats sur l'écriture, ben, y a pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose. Donc tout ça pour vous dire que parfois, on a l'impression qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'enseigner le code, on a l'impression qu'il n'est question que du décodage et pas également de l'encodage, et que quand il est question d'entrer dans l'écrit, cela se résume à entrer dans la lecture. Et comme Marie-France l'a rappelé, pour nous, penser l'interaction lecture et lecture-écriture, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. D'autant plus, peut-être, et je fais un lien avec la conférence de consensus sur l'écriture qui a eu lieu au printemps 2018. Si vous regardez les 10 recommandations là, de la conférence de consensus, la première, c'est bien de rappeler combien les besoins en matière d'enseignement de l'écriture sont importants, et ce, dès la maternelle. Donc, c'est essentiel d'enseigner de façon progressive et continue l'écriture dès la maternelle, mais aussi, dernière recommandation, 10e recommandation, c'est de former tous les enseignants à cette question de l'écriture. Parce que, comme cette conférence l'a souligné, il y a un nombre important d'enseignants qui signalent ne pas avoir reçu de formation sur les questions d'écriture, ne pas avoir reçu suffisamment de formation dans ce domaine-là. D'où le titre de mon intervention, « Formons-nous et formons hein, à l'enseignement de l'écriture ». Ce petit préambule étant posé, j'en viens au cœur de mon exposé. Et le cœur, c'est bien cette idée de construire des ressources pour la formation sur les questions d'enseignement de l'écriture. En voyant cette diapo, je suppose que le lien avec l'intervention de Marie-France vous saute aux yeux. J'explique un petit peu. Donc c'est un travail que nous menons depuis septembre 2017 avec une dizaine de collègues, une quinzaine de classes, aussi en collaboration avec le Centre Alain Savary, donc Virginie Hall, Patrick Picard et maintenant Frédéric Mauguen. Et quand on réfléchissait, vous voyez, on est parti sur la production de ressources assez nombreuses. Et on a longtemps réfléchi sur mais comment on peut agencer ces ressources, comment on peut les présenter et les mettre en dialogue. Et en travaillant, parce que vous avez compris qu'avec Patrice et Marie-France, on collabore beaucoup, en travaillant et en écoutant justement Marie-France, ça nous est paru évident que pour le moment, le plus simple, c'était de vous présenter nos ressources sous le format d'une boîte à outils. Donc, continuité avec la même petite boîte que celle de Marie-France, et puis quelque chose de plus spécifique, parce que vous voyez qu'il y a des petits outils d'écriture hein, qui sont à côté de la boîte à outils. Ça, c'est pour le clin d'œil. Hein. Bon. Par rapport à ces ressources, vous voyez là, dans l'organisation, telles qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est un travail qui n'est pas fini, hein, qui est en cours. On les organise en deux sortes de ressources ou d'apports. En haut, en jaune, des ressources plus générales. Vous voyez celles sur... Hop, je vais passer à celle-ci, comme ça vous verrez en même temps les collègues. Des ressources sur les résultats de la recherche lire-écrire CP, qui concernent plus le domaine de l'écriture, mais pas que, parce que vous avez bien vu qu'on On travaille aussi dans l'interaction avec les questions de langue, de lecture, de compréhension. Des apports sur nos choix, notre démarche. Des apports qui, pour nous, sont essentiels sur ce qu'est l'écriture. C'est-à-dire que ce sont déjà des apports, mais ce sont des apports pour la formation. Hein. Ce ne sont pas, des apports uniquement théoriques. C'est-à-dire des ressources sur vraiment ce qu'est l'écriture, mais pour repenser l'écriture en formation. Je vais détailler tout ça après. Puis, vous voyez, des ressources plus précises sur, d'une part, des ressources pour analyser les pratiques des enseignants. Ensuite, des ressources sur une partie du processus scriptural, c'est-à-dire la préparation de l'écriture, l'enseignement de la préparation de l'écriture. Ça, Pascal Bachelet, qui, là, au fond, vous le présentera dans les ateliers demain, c'est-à-dire vraiment comment enseigner cette préparation de l'écriture, et notamment via des situations d'écriture assez fréquentes dans les classes. Elle vous en dira plus demain. C'est la petite page de pub. Hein, c'est l'encart publicitaire, vous l'avez compris. Autre type de ressources plus ciblées sur vraiment des situations d'enseignement de l'écriture. Comment, en formation, accompagner les enseignants pour leur permettre de produire des phrases, comme le rapport le dit, dès le début de l'année et tout au long de l'année. Comment, puisque ça c'est le travail que vous présenteront les collègues sont au fond, Nathalie Larocque et Sylvie Rebeschini, demain également. Comment aussi accompagner les enseignants pour qu'ils réalisent des dictées à l'adulte? Quand on voit dans les résultats de la recherche Lire Écrire qu'il n'y a quasiment pas de dictées à l'adulte réalisées au CP. Donc, comment mettre en œuvre des dictées à l'adulte? C'est le travail que vous présenteront également demain Bastien Cavrivière et Laurence Ducos. Et enfin, on a aussi souhaité mettre des ressources plutôt sur l'activité de l'élève en train d'écrire en situation scolaire, c'est-à-dire en situation d'interaction avec des outils et avec un enseignant. Pour ma part, je vais vous présenter plutôt ce qu'il y a en haut, en jaune, tout en soulignant vraiment que ces ressources sont... vous le verrez aussi dans les ateliers de demain, sont vraiment complémentaires et sont en dialogue. Bon, je vais commencer, alors je vous dis que je vais vous présenter les ressources en jaune, mais je vais commencer par ne pas présenter la première, c'est-à-dire les résultats de la recherche Lire, Écrire, CP, principalement dans le domaine de l'écriture, simplement parce que c'est déjà en ligne. En fait, c'était la conférence de l'an dernier, octobre, novembre, je ne sais plus, de l'an dernier. Ce ne sont pas les ressources brutes. C'était déjà une présentation des résultats de la recherche, mais dans des formats accessibles et pensés pour la formation, notamment pour ceux qui connaissent ces ressources. Hein, c'était repenser les résultats sur les performances des élèves en un format ou un langage plus adapté à celui de l'école. Et c'était... De mémoire, hein, sinon je vous renvoie, c'était par exemple montrer que la plupart des élèves, c'est-à-dire plus de 80% des élèves, avaient acquis en situation de production d'écrit, en situation de copie, en situation de d'essai d'écriture ou d'encodage, avaient acquis un certain nombre de choses et que d'autres étaient en train d'acquérir. Donc, vous voyez, hein, il y avait tout un travail de reformulation des résultats, des données, des outils de la recherche. Donc je saute ce volet-là, je vous renvoie au site, en remerciant au passage Virginie Hall et Patrick Picard qui ont fait un gros boulot pour transformer cette conférence en outil pour les formateurs. J'en viens donc à la deuxième type de ressources, l'explicitation de notre démarche et de nos choix. Vous allez retrouver des points communs avec ce que Marie-France et Patrice ont déjà présenté. C'est vrai que le point de départ de notre groupe de travail, c'était bien de se dire qu'il y a des résultats très importants qui ont été produits dans le cadre de la recherche lire-écrire au CP, et on avait envie de diffuser ces résultats. Mais assez vite, quand on a voulu diffuser les résultats et en faire des ressources pour la formation... Ah, je vais avoir un peu de concurrence à l'extérieur. Peut-être s'éloigner. Donc, je disais, quand on a voulu en faire des ressources pour la formation, on a réalisé, en tant que chercheur, la difficulté qu'il y avait à passer de ces données, ces outils, ces résultats de la recherche à vraiment des outils de formation, à une ingénierie de formation ajustée au terrain. Et pourtant, il nous semblait que ce que les collègues, vous, en tant que formateur ou d'autres, vous remontiez, c'était qu'il y avait un besoin réel de ressources pour la formation en matière d'enseignement de l'écriture et aussi une volonté de prendre appui sur ce qu'on pourrait appeler du scientifiquement éprouvé. Donc ça, c'était vraiment notre point de départ. Et donc, on a mis en place un groupe de travail, groupe dont le travail repose sur une démarche collaborative. Démarche collaborative, où il y a un autre terme qui me plaît beaucoup, qui est celui d'intelligence collaborative. Parce qu'il s'agit de plus qu'un simple échange d'informations entre divers acteurs. La collaboration est vue comme un événement créatif dans un processus de recherche, ou pour nous également de formation. Donc là, je cite Delorme, mais c'est vraiment comme ça qu'on travaille dans le groupe. C'est vraiment, on crée ensemble, me semble-t-il. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on n'est pas, je pense qu'aujourd'hui, Roland Guagou va intervenir juste après sur le prescriptif, on est quand même dans une période où il y a beaucoup d'éléments descendants qui nous sont amenés. Là, on est dans une démarche qui n'est pas descendante, qui n'est pas applicationniste, puisqu'on est vraiment dans un dialogue et dans l'idée d'apport de réciprocité entre la théorie et la pratique. Et même ce que je vais vous présenter, là, on l'a bien conçu dans ces allers-retours entre la recherche et le terrain. Donc, on est dans ce dialogue horizontal qui a aussi pour caractéristique de prendre appui sur ce qu'on appelle le pluricatégoriel ou l'intermétier. Donc, c'est bien cette idée que dans le groupe, il y a des gens qui ont des expériences, des métiers, des parcours différents et que ça nous permet d'avancer. Et dans cette idée de co-construction, qui est basée sur la complémentarité et la connaissance réciproque, notre question de départ, c'était celle-là. Si on prend sérieusement en compte les résultats de la recherche et les besoins de nos terrains, alors quid pour la formation? Et on a découlé le choix de projets différents qui faisaient sens, qui font sens pour chacun, pour chacune des personnes impliquées, en fonction de leur terrain et aussi en fonction des résultats de la recherche. Et on est, vous allez le voir, dans une élaboration progressive, tâtonnante, longue, par ajustement successif, et très certainement que le travail avec vous ces deux jours va nous permettre aussi d'avancer. Donc on est très preneurs de vos retours, de vos questions. Alors j'en viens à notre objectif. Notre objectif, sans vraiment de surprise, c'est bien la production de ressources, d'outils pour la formation et d'outils qu'on peut qualifier à la fois de robustes, je vais expliquer, et de potentiellement rentables. Ce sont nos deux R, robustes et rentables. Robuste, c'est un terme qu'on emprunte à Aline Robert, qui est une didacticienne des mathématiques, qui, dans son travail, notamment sur les vidéos, montre bien combien les outils ont à répondre à une double contrainte, à la fois une contrainte du terrain et une contrainte de la recherche. Je vais réexpliquer, détailler un peu juste après. Mais aussi, cette idée de robustesse n'était pas suffisante pour caractériser notre travail, parce que quand on avance, et plus on avance, plus on se dit qu'on fait des choix de l'ordre de la rentabilité. Ça veut dire qu'on fait des hypothèses, on mise sur des outils ou sur des situations qui potentiellement nous semble plus rentable pour les élèves, pour les enseignants et pour les formateurs. Quand je dis par exemple pour les élèves, c'est dans notre travail, travail sur les différents outils, il nous semble quand même qu'il y a par exemple des situations d'écriture qui donnent des occasions d'apprendre particulièrement intéressantes pour les élèves. Je pense notamment au travail sur la production de phrases, en accord avec la recherche, mais aussi ce qu'on voit dans les classes quand on travaille avec les enseignants, on voit bien que travailler avec les élèves sur de la production de phrases offre des occasions d'apprendre autre chose que quand on laisse les élèves en autonomie, en copie, ou quand on fait de la dictée de mots. Je caricature un petit peu, hein, mais notamment dans le lien avec les questions que tu posais de morphologie ou de travail sur la phrase au niveau syntaxique. Oui, là, au niveau des élèves. Et au niveau des enseignants aussi, on fait des choix en se disant, par exemple, qu'en formation, proposer de produire des phrases choisies par l'enseignant, c'est plus abordable et donc potentiellement plus rentable, parce que les enseignants vont davantage s'en emparer, alors qu'on sait qu'il y a pour beaucoup de très nombreuses résistances à faire produire des élèves, faire produire des phrases et des textes dès le début de l'année. Vous voyez ? Donc on est vraiment dans une logique où on se dit, mais quel choix on va opérer pour que ce qu'on propose ait le plus de chances de faire avancer les pratiques. Donc notre questionnement, c'est bien cette idée de comment nos outils peuvent donner du pouvoir d'agir aux enseignants, aux élèves, aux formateurs. C'est ça, hein, finalement, notre questionnement. Je détaillerai un peu plus loin. Donc quand on est sur l'idée de production de ressources robustes, pour l'enseignement et l'apprentissage de l'écriture au cycle 2. Vous voyez, quand je parlais de double contrainte, c'est ça. Mais il faut bien avoir en tête que c'est bien plus exigeant que de produire des ressources uniquement en tenant compte des contraintes de la recherche ou des contraintes du terrain. On a vraiment cette idée de double contrainte. Donc on doit répondre à une exigence de scientificité en cohérence avec la recherche, notamment en intégrant les objets et les résultats de la recherche lire écrire CP, mais pas que. On prend appui sur bien d'autres résultats de recherche en matière d'écriture, et le champ de l'écriture est un champ extrêmement vaste et actif. Donc, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'écriture, il y a des travaux en psychologie, en sciences du langage, en sociologie, en anthropologie et bien sûr en didactique. Donc il y a beaucoup de travaux à prendre en considération. Il y a aussi l'idée de se créer une culture commune, scientifique, pour pouvoir avancer ensemble, se comprendre, y réaliser une veille scientifique, nourrir les connaissances aussi scientifiques par notre travail. Oui, donc ça, c'est le volet répondre à une exigence scientifique. Et répondre à l'exigence de terrain, c'est bien travailler en cohérence avec le terrain, pour le terrain, partir vraiment de ce qui se fait sur le terrain, prendre en compte les contraintes et ce qui peut faire obstacle sur le terrain. Les contraintes, ça peut être des choses très simples comme tout caser dans l'emploi du temps, mais on sait que c'est quelque chose qui est... c'est un nœud là, sur lequel les enseignants reviennent souvent. Les obstacles, ça peut être des obstacles liés vraiment aux représentations sur l'apprentissage de l'écriture. On voit bien qu'en formation, pour certains collègues, ce n'est pas possible de faire produire des phrases et des textes aux élèves en début d'année parce que l'apprentissage commence par l'écriture de syllabes, puis de mots, puis plus tard de phrases, puis de textes. Donc on a parfois des résistances très très fortes en matière d'écriture. Voyez ? Il faut les prendre en considération pour avancer. Et puis, évidemment, travailler en accord avec les programmes, je dis bien les programmes, hein, et le socle commun, et pas spécialement d'autres documents ou discours qui circulent. Hein. C'est pas pour autant qu'on les ignore, hein, on va se situer. Hein, mais bon. Quelques éléments complémentaires là, qui caractérisent notre production de ressources. On essaye à chaque fois de produire nos ressources en croisant des données multiples. Dans ce que je vais vous présenter, je vous ai dit, ça fait partie vraiment de la robustesse des outils. C'est important que derrière les modèles, par exemple, de l'écriture, il y ait différents travaux de recherche. Donc, il y a une espèce de convergence, hein, de concordance des résultats. C'est aussi vraiment ce travail au plus près du terrain qui est essentiel pour nous. C'est ce que je vous expliquais, faire des choix de situations ou d'outils abordables et rentables. Parfois, quand on présente à des enseignants ou à des formateurs ou à des collègues inspecteurs notre travail, on nous dit « mais c'est pas innovant ». Mais en fait, on ne cherche pas, c'est ce que tu disais aussi, hein, Marie-France, avec le Visibilio, on ne cherche pas spécialement des pratiques innovantes. Ce n'est pas ça notre objectif. C'est plutôt cette idée de robustesse et de rentabilité. Ce n'est pas pareil. C'est important de dire qu'on situe vraiment le travail dans la continuité avec la maternelle. Ce n'est pas parce qu'on travaille principalement sur le CP que pour nous, l'écriture démarre au CP. Il ne peut pas y avoir de malentendu par rapport à ça. Ni qu'on isole l'écriture par rapport à la lecture ou par rapport à l'oral ou à l'étude de la langue. Pour nous, il y a bien des interactions très fortes à penser entre ces différents domaines. Et enfin, dernier point essentiel, qui rejoint aussi ce que tu as dit, Marie-France, quand tu parlais des modèles didactiques. Pour nous, c'est essentiel d'avoir une cohérence et un dialogue entre ce qu'on va appeler les modèles ou les ressources sur l'écriture et les ressources ou les mises en œuvre dans les ressources sur l'enseignement de l'écriture. Et ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, et je vais y revenir juste après sur ce point-là. Il me semble que dans le domaine de l'écriture, il y a parfois confusion entre ces modèles ou ce que seraient les mises en œuvre de l'écriture, l'enseignement de l'écriture, et vraiment les modèles de l'activité d'écriture, avec des incidences, vous allez voir, importantes pour la formation. Tout ceci étant dit, j'en viens à mon deuxième point. Donc, mais qu'est-ce que l'écriture ? Avec cette idée de ne pas vous faire un exposé théorique sur ce qu'est l'écriture, mais vraiment de déjà vous proposer, puisqu'on est dans cette idée de boîte à outils, de vraiment déjà vous proposer des ressources pour la formation. Donc des ressources pour, c'est un peu ambitieux, hein, mais pour repenser l'écriture et son enseignement. Pour élaborer ces ressources, et même pour répondre, enfin finalement pour justifier la présence de ces ressources, eh bien, ça part de constat. Donc pourquoi on tient tellement à ces ressources sur l'écriture ? Eh bien, c'est parce que quand on lit, on écoute les travaux sur l'écriture, que ce soit en formation ou les travaux scientifiques, on est frappé de voir qu'il y a des conceptions et des points de vue très variables sur l'écriture. C'est-à-dire que ce que les uns et les autres mettent derrière le terme écriture peut être assez différent. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple dans la conférence de consensus une intervention de Bernard Letté, un chercheur en psychologie, qui montre bien combien l'écriture... écrire, c'est faire un travail de combinaison et de choix très complexe de graphèmes. Donc pour lui, l'écriture, c'est notamment, c'est comme ça qu'il la présente, en tout cas qu'il l'étudie, c'est cette question de choix graphémique très complexe pour l'élève. Donc il en vient à dire que l'écriture est plus complexe que la lecture au vu du nombre très important de combinaisons graphémiques possibles. Première manière d'aborder l'écriture. Autre manière d'aborder l'écriture, vous connaissez, je suppose, pour certains, les travaux de Dominique Bucheton. Quand elle intervient en conférence, elle insiste beaucoup sur le sujet écrivant. Et quand elle parle de sujet écrivant, je la cite, hein, c'est pour elle permettre aux élèves de se sentir auteurs de leur texte. Oui, on parle d'autre chose. Hein. C'est un autre point de vue sur l'écriture. Je pourrais prendre encore un autre exemple, les travaux, je me balade un petit peu, hein, de Kellogg, collègue chercheur américain, qui met en avant l'importance du rôle de la mémoire ou l'incidence de la mémoire dans le développement de l'écriture. pour encore parler des travaux sur l'importance ou le poids du geste graphomoteur de Marie-France Morin hein, et d'autres. Mais vous voyez, souvent, on a quand même des entrées ou des points de vue très variables sur l'écriture, qu'on peut situer sur un axe qui va de conception technique de l'écriture. Par exemple, écrire, c'est maîtriser l'orthographe, hein, ou écrire, c'est faire des choix de combinaisons graphémiques. Et c'est, tous ces travaux sont très intéressants. Ce ne sont pas du tout des critiques. Hein, et puis des approches plus fonctionnelles, où on se demande, mais l'entrée, c'est bien les fonctions, les usages, le pourquoi on écrit. Donc on est parfois face à des approches resserrées de l'écriture, et puis des approches qu'on pourrait qualifier de littéraciques. J'emploie ce terme de parfois en formation, quand on amène comme ça un concept qui n'est pas dans les programmes et qui n'est pas très utilisé, en tout cas ici en France, les collègues nous pensent que c'est encore une question de mode, hein, que ça va passer. Mais je crois vraiment que les travaux sur la littératie par rapport à l'écriture sont extrêmement porteurs pour réfléchir sur l'enseignement de l'écriture. Et quand on parle d'approche littératique, je vous renvoie, sans doute que ce ne sera pas lisible, mais je tenais à vous le mettre dans le diaporama, un travail de Manon Hébert et Martin Lépine de 2012, qui ont étudié une centaine de travaux francophones sur la littératie pour essayer de dégager ce qu'ils appellent les valeurs ajoutées du concept de littératie, c'est-à-dire ce qu'on gagne quand on se met dans les pas de la littératie, quand on pense littératie. Vous voyez ? Et notamment, c'est moi qui ai souligné, hein, quand on pense littératie, écriture dans un cadre dans le cadre de la littératie, on est bien sur une perspective plurielle, interdisciplinaire. On pense l'écriture comme un ensemble d'attitudes, de connaissances, d'habiletés et de compétences liées à l'appropriation de la culture écrite. Vous voyez, je reviens en arrière, mais on n'est pas sur une approche resserrée. On est bien dans cette vision très, très englobante de l'écriture. Tout ça pour dire qu'en formation, c'est vraiment important de préciser l'objet dont on parle. Quand on parle d'écriture, de quoi parle-t-on ? Important de situer les approches. Il y a souvent des questions des collègues sur « Mais oui, mais est-ce que entre Ouzoulias et Bucheton, est-ce que vous proposez, est-ce que c'est compatible ?» Vous voyez ? Mais de quoi on parle ? Je dis aussi situer les discours, parce que quand on dit que le niveau baisse en écriture, de quoi parle-t-on ? Généralement, on ne parle que d'un résultat qu'on possède, c'est que le niveau baisse en orthographe. Mais l'orthographe, ce n'est pas toutes les dimensions de l'écriture. Oui, donc c'est vraiment important de situer, hein, de situer les discours. Je continue. Deuxième constat. Généralement, les modèles de l'écriture qui sont utilisés à l'école ou utilisés en formation, ce sont des modèles qui me semblent peu ou partiellement approprié ou ajusté. Je vais prendre les deux modèles que je rencontre le plus fréquemment. Il y a d'abord le modèle Prinkeps d'Ice et Flower. Si je vous parle de anticipation, textualisation, retour, révision, donc vraiment cette idée que l'écriture se déploie via ces trois types d'opérations, ce sont, et d'ailleurs, je vais y revenir et les utiliser un peu plus loin dans un des modèles. C'est un modèle très riche, mais il ne faut pas oublier que c'est un modèle qui a été conçu sur l'étude du processus scriptural chez des adultes. Alors, bien sûr, il y a eu des travaux ensuite, notamment ceux de Scardamalia et Beretter sur l'écriture plus enfantine. Mais on est au départ sur de l'écriture d'adultes, sur des modèles qui pensent l'écriture, qui décrivent l'écriture d'adultes, et aussi sur de l'écriture textuelle, textuelle dans le sens de l'écriture linéaire longue. Or, on sait qu'à l'école, notamment en CP, on n'écrit pas toujours des textes. Hein, on peut écrire des syllabes, des mots. Comme tu l'as montré, Marie-France, tout à l'heure, ça peut être aussi un commentaire d'illustration, ça peut être un schéma, ça peut être une ligne du temps, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on n'est pas toujours dans ce, voyez, dans ce format-là d'écriture. Deuxième modèle souvent utilisé, c'est celui d'Emilia Ferrero, extrêmement intéressant pour travailler sur vraiment ce qu'on appelle l'écriture précoce, hein, les essais d'écriture. Mais à nouveau, il ne faut pas oublier que c'est un modèle qui a été conçu par rapport à l'espagnol, qui est une langue bien plus transparente que le français. Donc on a à repenser ces modèles-là pour notre situation, hein, nos contextes d'enseignement. Dernier point, dernier constat, comme je vous le disais, c'est que généralement, il y a une confusion entre les modèles d'enseignement d'écriture et les modèles de l'écriture. C'est-à-dire que quand on parle de ce qu'est l'écriture à l'école, on est sur des modèles d'enseignement. Et avec deux modèles prédominants, le modèle projet ou chantier d'écriture, qui va de la présentation du projet jusqu'à la publication, généralement, hein, ou le modèle qu'on appelle le modèle du brouillon traditionnel, écrivez, relisez, améliorez, recopiez. Je dis bien brouillon traditionnel qu'on voit. Là, je me focalise pas spécialement sur le CP, hein, quand je dis ça. Donc, ça veut dire qu'en formation, si on veut repenser et travailler sur ce qu'est l'écriture, on a besoin de modèles qui fonctionnent même pour nos tout jeunes scripteurs, de modèles qui fonctionnent quelle que soit l'unité. Quand je dis unité, ça peut être lettre, syllabe, mot, phrase, texte, l'unité produite, et quel que soit le type d'écrit. On a, je pense, vraiment besoin de modèles englobants et aussi curriculaires, c'est-à-dire de modèles qui vont être valables de la maternelle jusqu'au cycle 4, voire après, vous voyez, qui permettent de penser ces questions de progression, de programmation et de continuité. Finalement, des modèles qui permettent de repenser l'enseignement de l'écriture. Et donc, c'est bien dans cette optique-là que je vais vous présenter quatre ressources. La première, c'est celle-ci. C'est d'abord l'idée que écrire, c'est mettre en œuvre de très nombreuses dimensions qui sont en interaction. Sans doute plus qu'en interférence, peu importe. Quand on dit ça, du point de vue de la robustesse, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de travaux sur l'écriture qui montrent qu'écrire, c'est gérer plus ou moins simultanément un nombre très important de contraintes. Donc on a fait des choix pour élaborer ces ressources. On n'a pas gardé le terme « contrainte » parce que ça nous semble être un terme un peu péjoratif pour la formation. Donc, on parle plutôt de dimension. Mais vous voyez, il faut bien réaliser qu'écrire, c'est gérer et apprendre à écrire et enseigner l'écriture. C'est faire tout ça. Je vais détailler un petit peu. Il y a beaucoup d'éléments. Je vais aller assez vite. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est que quand on travaille sur l'écriture, quand un élève apprend à écrire et quand on enseigne l'écriture, potentiellement, on est sur du linguistique. Ça, généralement, c'est la dimension qui n'est pas oubliée, hein, dans les classes. Mais il y a beaucoup de choses. L'encodage phonographique, orthographique, le découpage en mots, en phrases, en paragraphes, la construction syntaxique, les choix lexicaux, la ponctuation, la concordance des temps. Je vous donne quelques exemples, hein. Ce n'est pas exhaustif, sinon on y passerait l'heure et c'est pas l'objectif. Mais écrire, c'est aussi gérer la dimension graphomotrice de l'écriture. Et on sait, par différents travaux, combien la dimension graphomotrice représente un poids très important, notamment dans le démarrage de l'apprentissage de l'écriture. On sait aussi l'importance de la position du scripteur, de ses outils, l'importance de la tenue de l'outil, de la pression. Enfin, il y a beaucoup de travaux dans cette, qui montrent tout ça. Écrire, c'est aussi utiliser des supports et des outils. Jean-Luc Velay, par exemple, ou d'autres, hein, Denis Lamargo, ont bien montré l'influence de l'écran, du clavier, de la taille aussi, pour d'autres, dans d'autres travaux, de la taille des outils, de l'orientation des supports, la taille du support, du lignage, on pourrait dire aussi du quadrillage, de l'outil scripteur, à tel point qu'il y a des travaux qui disent que les outils nous scripturalisent. C'est-à-dire que vraiment, on n'écrit pas de la même manière selon les outils qu'on utilise. Et puis aussi, l'importance essentielle pour le CP, des outils en tant qu'aide pour écrire des répertoires, frises alphabétiques et autres. On va y revenir. Puis il y a la dimension affective. Quand on travaille avec des collègues en post-alphabétisation, ils sont souvent là-dessus. Ils insistent sur le fait que les adultes ou nos grands jeunes qui décrochent par rapport à l'écriture, la plupart du temps, ce qu'ils disent, c'est qu'ils détestaient écrire. Parce que c'était jamais bon, il y avait toujours des fautes, sous-entendu d'orthographe. Hein, vous voyez déjà de quoi on parle, hein, de quelle dimension on parle. Et que donc, dès qu'ils sortent du système scolaire, bien la première chose qu'ils font, c'est qu'ils n'écrivent plus parce qu'ils détestaient écrire. Donc vous voyez l'importance d'aussi prendre en compte ce côté affectif, le goût pour l'écriture. L'implication dans l'écriture du sujet scripteur. Les travaux sur le rapport à l'écriture qui dépassent cette dimension affective. Mais bon. On a aussi, dans l'écriture, une dimension lecture. Il ne faut pas oublier qu'écrire demande de se lire, de se relire. Écrire, c'est aussi être lu. Donc il y a des interactions très fortes entre la lecture et l'écriture. Je pense que ça, c'est important de le rappeler dans le contexte actuel. Notamment Fijalkov qui disait bien que lecture et écriture, ce sont les deux faces d'une même pièce. Puis ne pas oublier que quand on est en écriture, quand on écrit, on est dans des situations langagières. Écrire, c'est un acte langagier. C'est-à-dire qu'on est face à des fonctions diverses attribuées à l'écriture qui orientent l'écriture. On a cette question, on sait complexe pour nos jeunes scripteurs du destinataire absent. Mais on sait aussi, quand on parle de situation langagière et de situation d'écriture, l'écriture, ça prend principalement en contexte scolaire, et donc on est dans un contexte, dans des situations d'interaction orale qui accompagnent l'écriture. Pardon. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une part importante d'oralité dans l'écriture. Dernière dimension, mais vous voyez que ça fait beaucoup, hein, c'est copieux tout ça. Dernière dimension, c'est la dimension cognitive. Il faut souligner, comme je l'ai dit, notamment l'importance de la mémoire qui est fortement mise à contribution dans les tâches d'écriture. Parfois, on a l'impression que les élèves sont distraits ou pas attentifs quand ils disent « je ne sais plus ce que je devais écrire, j'ai oublié qu'est-ce qu'il fallait faire, j'ai oublié mon mot, j'ai oublié ma phrase ». Non, c'est parce que la mémoire, notamment la mémoire de travail, est très fortement mise à contribution et c'est un vrai problème pour les scripteurs novices, pour les jeunes scripteurs. Puis il y a des choix stratégiques à opérer, il faut faire attention à des contraintes, vous le voyez, multiples, donc il y a un travail cognitif intense. Tout ça pour vous dire que, hein, on pourrait résumer ça par une image qui parfois vaut mieux qu'un long discours, l'écriture c'est ça, c'est un millefeuille, vous voyez, c'est du multicouche. Mais ça veut dire qu'en formation, qu'est-ce que ça implique, vous voyez, en termes de formation ? Ça veut dire qu'il faut bien toujours avoir à l'esprit qu'écrire est une activité potentiellement complexe pour les élèves et pour les enseignants. C'est compliqué d'enseigner l'écriture, c'est compliqué d'apprendre à écrire. Et que c'est une acquisition qui se fait de façon très progressive et qui nécessite un enseignement, comme je disais tout au début, continu et progressif. C'est aussi une acquisition qui va être rendue possible par un enseignement qu'on va appeler ajusté et interrogé. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Il faut vraiment réfléchir sur comment on va enseigner ces différentes dimensions. Comment l'école prend en compte la dimension affective, par exemple, vous voyez ? est-ce qu'on gagne à enseigner ces composantes isolément ou est-ce qu'on gagne à les enseigner de façon croisée? Je tiens à le souligner parce que, par exemple, en lecture, on voit la tendance actuelle qui est de proposer des outils de remédiation qui saucissonnent l'enseignement et l'apprentissage de la lecture en micro-compétences qu'on va enseigner. Est-ce qu'on va faire les mêmes choix, vous voyez, pour l'écriture? Est-ce qu'on doit apprendre aux élèves à gérer simultanément plusieurs contraintes? Et si oui, lesquelles? Ou est-ce que c'est plus rentable de les échelonner? Il y a parfois des questions en formation de collègues qui disent « Mais quand on fait encoder une phrase ou un texte, est-ce que les élèves ont le droit d'écrire en capital ?» C'est bien cette question-là, vous voyez, hein. Et c'est aussi la dernière question, quels sont finalement les objectifs prioritaires? Les collègues qui demain reviendront sur la dictée à l'adulte reposeront cette question-là, hein, puisque c'est notamment dans le cadre de la dictée à l'adulte, comment permettre aux élèves de gérer progressivement de plus en plus de contraintes. Pareil pour l'encodage de phrases. On est aussi sur des questions vraiment importantes, sur faut-il enseigner certaines dimensions avant d'autres. Et là, les points de vue sont parfois assez virulents sur cette entrée-là. Pour certains, on commence par la dimension technique et une fois qu'on maîtrise suffisamment la technique, on en vient à ce qu'on pourrait appeler les situations fonctionnelles, c'est-à-dire mettre la technique au service de but. Pourquoi on écrit? Alors que si on prend des auteurs comme Freinet, qui est considéré comme un des pères de la didactique de l'écriture, pour lui, la technique découle de la nécessité de l'écrit et s'ancre dans cette nécessité. Vous voyez, c'est vraiment le point de vue inverse. Bon. Finalement, la question cruciale, c'est bien ça. C'est la question qu'on posait aussi par rapport à l'intervention de Marie-France, c'est comment rendre la complexité abordable. Et dans le travail qu'on effectue avec les collègues, il nous semble qu'il y a trois points qui sont cruciaux par rapport à cette question. La question du choix des tâches ou des situations, notamment les plus rentables, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La question des aides, quel étayage, mais aussi quels outils pour accompagner l'écriture, notamment toujours dans cette idée de faire écrire les élèves dès le début de l'année. Hein, c'est ça aussi, hein, ce qui est compliqué, hein, dans le travail avec les enseignants. Quels objectifs prioritaires se fixer pour chaque situation? En gardant cette idée, hein, vous voyez, de mille feuilles, on ne peut pas tout travailler. Donc, quels vont être à chaque fois les objectifs prioritaires que l'on va se donner? Mais ce modèle-là n'est pas suffisant. Donc, c'est un premier modèle, vraiment, pour rendre compte, vous voyez, de la complexité. Mais on a besoin d'un deuxième modèle. Parce que, justement, pour traiter cette complexité, pour gérer cette complexité. Et là, il y a de nouveau quelque chose de crucial. Quand je vous parlais de rentable, hein, de modèle rentable pour l'école, il y a quelque chose de crucial. C'est que quand on prend les travaux sur l'écriture, on voit, comme je vous l'ai dit, hein, qu'il y a ces opérations d'anticipation, de retour et de textualisation. Mais là, on a fait le choix de ne pas parler de textualisation, mais il a fallu beaucoup de temps pour trouver ce terme d'écriture du produit visé. C'est-à-dire quand les élèves commencent à écrire le produit qu'ils souhaitent écrire. Oui. Justement parce que ce n'est pas toujours du texte. Ça peut être autre chose que du texte. De nouveau, derrière ce modèle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a le modèle Prinkhebst, Dice et Flower, et puis beaucoup d'autres travaux qui ont découlé de ce modèle. Il y a aussi les travaux sur l'activité rédactionnelle et notamment les travaux qui mettent en avant le fait que les stratégies anticipatrices ont un impact très fort sur la qualité de l'écrit produit, notamment les travaux de Thierry Olive et Dany Piola. Après, il faudra citer beaucoup d'autres personnes, hein, mais Il y a aussi tous les travaux, pour vous dire qu'il y a une convergence de travaux, et vous allez voir qu'il y a un décalage par rapport aux pratiques enseignantes. Il y a aussi les travaux sur le cycle 3 que j'ai mené avec Jérôme Faux, où on voit que les meilleurs scripteurs de cycle 3, ce sont ceux qui recourent à des stratégies de préparation de l'écriture. Et quand on demande aux scripteurs les plus faibles de préparer l'écriture, on voit que les manières d'opérer des faibles scripteurs de cycle 3, hein, c'est leur manière d'opérer pour préparer l'écriture, ne sont pas rentables. C'est-à-dire qu'on a des scripteurs les plus performants qui, même si ça n'a pas été enseigné, préparent de façon efficace l'écriture, et d'autres qui n'y arrivent pas. On a aussi tous les travaux sur le brouillon, notamment les travaux passionnants de Catherine Boré, qui montrent bien qu'à l'école, on est face à ce qu'elle appelle un rétrécissement du processus scriptural. C'est-à-dire que le plus souvent, hein, pour les élèves et pour les enseignants, écrire, c'est écrire. Il n'y a pas ce temps d'anticipation, de préparation de l'écriture. On a aussi les résultats de la recherche « Lire-écrire ». CP, où je ne sais pas si vous les avez en tête, hein, mais on voyait que 40% des enseignants consacraient en moyenne entre 0 et 1 minute du temps de l'écriture à préparer. Bon, autant vous dire que entre 0 et même 1 minute, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, et quelle que soit la tâche d'écriture, donc que ce soit pour de la copie, de la dictée, hein, de la production d'écrit. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a très très peu de préparation de l'écriture dans les classes et d'enseignement de la préparation de l'écriture. Tout ça pour vous dire qu'en formation, c'est vraiment important d'insister sur le fait qu'il ne faut pas rétrécir ce processus scriptural autant d'écriture du produit visé. Mais que dès qu'il y a complexité, mais attention, complexité pour l'élève, pour le scripteur, ce qui peut paraître simple pour les enseignants, ne l'est pas spécialement pour l'élève. Et même, on parlait d'hétérogénéité au sein des classes. Au sein des classes, vous avez des tâches que vous allez proposer ou des situations qui vont être simples pour certains élèves et très complexes pour d'autres. Mais dès qu'il y a complexité, on voit bien qu'on doit se demander ce qu'on gagne à travailler de façon anticipée avec les élèves, c'est-à-dire ce qu'on va appeler, d'un point de vue didactique, préparation de l'écriture. Ce qu'on gagne à travailler, à gérer durant l'écriture du produit visé et ce qu'on gagne à travailler par des retours, qui peuvent être de la relecture, des feedbacks, de la réécriture, de la correction. Et en ce qui concerne le CP, on en vient à plusieurs mises en œuvre possibles de cette opération-là d'écriture non rétrécie. Ce qu'on voit dans les classes, alors, vous voyez, j'ai mis mise en œuvre possible, ça veut dire que ce ne sont pas les seuls, mais ce sont deux types de mise en œuvre que, quand on travaille au plus près du terrain, on constate, un petit peu comme de canevas, hein, tu parlais tout à l'heure de canevas. La première, vous voyez, dans les classes, on voit un temps de préparation avant que les élèves ne prennent, je dis l'outil scripteur, hein, que ce soit le feutre, le crayon à papier, le stylo, enfin, vous avez compris. Donc avant, on a un temps de préparation de l'écriture qui est souvent dans les classes collectives, pas toujours, mais souvent. Et souvent, c'est un temps qu'on va dire institutionnalisé, posé en tant que tel. Puis, on a l'écriture du produit visé et on voit que, durant l'écriture du produit visé, on a un accompagnement par de l'enseignant. Et cet accompagnement, il contient encore de la préparation. C'est-à-dire que l'enseignant vient près de certains élèves et va dire, tu te souviens, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que tu dois écrire, tu peux me redire la phrase que tu as écrite, comment tu vas faire, comment on a dit qu'on pouvait écrire ce mot-là, où sont les outils, où tu vas chercher pour trouver ce mot-là dans la classe. Vous voyez, vraiment, donc, on a une poursuite de cette préparation de l'écriture et en même temps, déjà aussi, des retours, des feedbacks immédiats, c'est-à-dire l'enseignant qui va dire, je donne un exemple, hein, je relis ce que tu as écrit, feedback immédiat, pour montrer l'écart entre l'attendu et le effectivement écrit. Je pense que ce sont des choses que vous connaissez bien. Et puis, ensuite, à la fin, un temps de nouveau souvent institutionnalisé, de retour sur l'écrit produit, qui est parfois collectif. Parfois, par exemple, on voit, quand il y a eu production de phrases avec un démarrage collectif où on a fait tout un travail de préparation ou mémorisation de la phrase, découpage en mots avec, on trace le nombre de mots et un trait sur le tableau par mot. On redit pour chaque mot, c'est ce que les collègues aussi vous présenteront demain. Pour chaque mot, on pose la question comment on va faire pour encoder ce mot avec les élèves. Donc tout ça, c'est bien ce travail-là de préparation. Et parfois, on voit après un retour collectif où les élèves viennent écrire à tour de rôle un mot pour avoir finalement cette phrase globale qui est commentée, corrigée en collectif. Une autre mise en œuvre possible qu'on tient à souligner parce que en formation, on a des enseignants qui nous disent « Mais non, en début d'année, je fais écrire des mots, mais pas de phrases. » Mais quand on analyse avec eux leur pratique, on peut avoir des dictées de mots, mais une dictée de 5 mots ou de parfois 10 mots. Oui. Donc, vous me sentez venir. Si on pense que l'élève est capable, vous voyez, d'écrire 10 mots, pourquoi pas écrire une phrase ? Et donc, on s'est dit que ça pouvait être aussi, mais de nouveau, c'est parce qu'on l'a observé sur le terrain, ça pouvait être intéressant de penser l'activité d'écriture en la découpant. Par exemple, on va écrire le groupe nominal. Ton exemple, c'était les lapins courent vite. Je vais reprendre. Oui, de la dictée, mais ça pourrait être de l'encodage de phrases. On demanderait d'abord aux élèves d'écrire. D'abord, il y aura un temps de préparation globale sur l'activité. On y reviendra demain aussi sur ce que peut être vraiment ce temps de préparation globale. Puis, on repréparerait la première partie, les lapins, l'écriture du produit visé, avec parfois, mais pas toujours, un retour, un feedback immédiat. Puis, on reprépare la suite, court, on l'écrit, avec une possibilité de retour, de feedback. Et puis, vous voyez, on a refait la flèche, on manquait de place, mais pour vous dire qu'on peut continuer. C'est-à-dire qu'on peut aussi vraiment penser la production de phrases et de textes de façon saucissonnée, en faisant quand même attention, si on les pose comme objectif d'enseignement et d'apprentissage, aux questions notamment d'accord, de ponctuation, de syntaxe. Troisième ressources pour la formation qu'on vous propose, on a été frappé quand on travaillait avec les enseignants et même avec les collègues en formation, que quand on parlait d'encodage, on ne mettait pas les mêmes choses derrière ce terme. Et surtout, on ne mettait pas les mêmes procédures. Donc on s'est dit que c'était vraiment important de repréciser en formation que encoder, et donc enseigner l'encodage, c'était enseigner 4 procédures. De nouveau, rien de révolutionnaire. C'est juste une question de synthétiser, de rappeler. D'abord que pour encoder, on peut faire appel à la procédure de découpage de la chaîne orale, ce que notamment Ouzoulias appelle les ciseaux, ou qu'on pourrait appeler la voie indirecte, en relation au travail avec la lecture. Une autre procédure, c'est faire appel au répertoire mental de mots écrits, ce qu'on pourrait appeler la voie directe. Petit à petit, on sait que dans les classes, les élèves mémorisent des mots qu'ils vont être capables d'écrire sans refaire appel au découpage de la chaîne orale. Mais il y a aussi 2 autres procédures essentielles, dont une qu'on voit souvent dans le travail en maternelle quand il y a des essais d'écriture en maternelle, mais qu'on voit nettement moins au CP et qui pourtant est très puissante, c'est l'analogie. C'est comme dans. On sait écrire un mot, on repère notamment une syllabe dans ce mot, On va réutiliser ce mot pour écrire ce qu'on doit écrire. Et puis, évidemment, c'est aussi utiliser les outils de la classe, que ce soit la frise alphabétique, les listes de mots, les cahiers, les affiches, les livres qu'on a lus, peut-être ce qu'on a extrait des livres qu'on a lus pour en faire des outils d'écriture, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, donc c'est vraiment cette question de rappeler ce qu'est l'encodage via ces quatre procédures. Et rappeler aussi que quand on parle d'encodage dans la recherche lire-écrire CP, on est sur deux tâches essentielles, dictée et production d'écrit. Quand on dit ça, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas travailler l'encodage en situation de copie, mais que telle que la copie est pratiquée dans la majorité des classes de CP, on n'est pas sûr qu'il y ait toujours un travail explicite et précis sur l'encodage. Donc en formation, vous voyez, toujours de passer de ces modèles à l'intérêt de ces modèles pour la formation. C'est bien rappeler combien il est important d'enseigner explicitement toutes ces procédures. C'est évidemment faire du lien avec les pratiques de maternelle, souligner la complémentarité entre décodage et encodage pour apprendre le code. On est bien dans ces questions-là. C'est aussi, ça c'est un point qui me paraît vraiment important, interroger la fonctionnalité des outils pour écrire pour les élèves, la fonctionnalité pour les élèves. Quand on va dans les classes, parfois on est frappé que les outils qui sont affichés sont à peine lisibles pour une partie des élèves, ou que certains ont besoin, vous voyez, de s'approcher, d'aller prendre l'affiche ou l'étiquette, mais si elle est prise, elle n'est plus disponible pour un autre élève. Et puis parfois pour certains enseignants, ça va faire une espèce de mouvement de cohue dans la classe qui va être très compliqué à gérer. Donc vous voyez, il y a vraiment en formation à s'interroger sur la fonctionnalité des outils pour l'écriture. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'outils pour la lecture, mais qui ne sont pas pensés comme des outils pour l'écriture. Vous voyez ? Hop, je vois qu'il y a un petit espace. Entre... Et puis, c'est s'interroger sur la construction des outils, c'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, donc comment on passe d'outils de lecture à des outils d'écriture. J'en viens à la dernière ressource. Une autre manière, je pense que vous reconnaissez une liste de tâches, une autre manière d'appréhender et de repenser l'écriture à l'école, c'est de l'envisager sous l'angle des tâches ou des situations d'écriture. Si vous regardez bien, il y a une petite différence entre ce que je vous projette et la liste des tâches telle qu'elle avait été conçue pour les observateurs de la recherche lire-écrire. Et je l'ai fait volontairement, parce que la différence, il y en a plusieurs, mais notamment, c'est que dans la liste de tâches qui servait aux observateurs à vraiment établir, tu parlais de pratiques réelles, de pratiques effectives dans les classes, on avait distingué la copie avec modèle et la copie après disparition du modèle. Pourquoi pas, en formation, refaire un bloc sur la copie, tout dépend de vos objectifs, vous voyez, et faire finalement une grosse tâche autour de la copie, comme on peut faire un gros bloc autour de la dictée, pour après interroger les enseignants sur les types de copie ou de dictée ou de production d'écrit pratiqués dans les classes. Oui. Donc vous voyez, c'est bien cette idée qu'il y a cette liste de départ, mais que l'idée c'est de réfléchir, appréhender l'écriture dans les classes, c'est aussi l'appréhender via les formats, les tâches, les situations d'écriture qui sont pratiquées. J'ai mis en rouge volontairement production d'écrit. Parce qu'il y a, déjà vous voyez, quand on parle de dictée, on parle potentiellement de choses très différentes. Quand on parle de copie, la recherche nous a montré que la copie qu'on va appeler différée après disparition du modèle, il n'y en avait quasiment pas dans les classes. C'est assez symptomatique. La tâche la plus pratiquée, c'est la copie avec modèle, et la moins pratiquée, c'est la copie après disparition du modèle. On a vraiment les deux extrêmes dans la recherche. Donc on voit qu'on a déjà une diversité derrière ces termes-là, mais quand on parle de production d'écrit, il faut être extrêmement prudent en formation, parce que comme je l'ai évoqué, quand on parle de production d'écrit, généralement ça renvoie à quoi chez les collègues ? Ça renvoie à de l'écriture longue et linéaire. Ça renvoie au projet d'écriture, ça renvoie au texte long, ça renvoie au chantier. Et donc, on n'est pas, notamment, sur de l'encodage de mots. On n'est pas spécialement sur les écrits courts, l'écriture d'une devinette, sur le fait de noter des performances en OPS, sur une petite feuille, le temps qu'on a mis pour faire 50 mètres ou 100 mètres, ou le temps que le copain a mis pour... On n'est pas sur légender une image, peut-être par un mot, par un bout de phrase, vous voyez. Donc, il faut faire vraiment attention à ce terme de production, production d'écrit ou production écrite. Et il faut bien se rappeler aussi pour les collègues que ça ne fait pas si longtemps, quand même, qu'à l'école, on valorise l'écriture précoce. Donc, les enseignants qui résistent en disant... pourquoi faire écrire si tôt les élèves ? Mais il faut quand même se rappeler que ça ne fait pas si longtemps qu'on conseille de faire écrire tôt les élèves. Voyez. Donc, par rapport à cet outil-là, les intérêts qu'on voit en formation, c'est notamment que ça permet, voyez, comme je disais, de définir ce qu'est l'écriture, ce qu'englobe le terme écriture. Parfois, pour les collègues, de la copie, ce n'est pas de l'écriture. De la calligraphie, ce n'est pas de l'écriture. Voyez. Ou préparer, revenir... faire les retours, ce n'est pas de l'écriture. Or, pour nous, c'est vraiment important de placer tout ceci dans l'écriture, justement par rapport, repenser au millefeuille ou au schéma, au premier schéma, parce que c'est bien tout ça qui permet de travailler les différentes composantes de l'écriture. Mais ça permet aussi d'observer et de questionner les pratiques, la place accordée à chaque tâche, l'unité travaillée. Parce que derrière ça, il y avait aussi les unités. Qu'est-ce qu'on fait écrire à nos élèves ? Avec derrière, évidemment, en formation, les résultats de la recherche lire-écrire, où on voit bien que les classes qui font un peu moins progresser leurs élèves que les autres produisent plus d'unités inférieures aux mots, c'est-à-dire lettres, syllabes. Et que les classes qui font un peu plus progresser leurs élèves font plus écrire des phrases et des textes. Oui. Donc cette question-là de lutte des unités, on sait qu'elle est cruciale. On sait que c'est pas le temps passé à l'écriture qui importe, mais c'est bien ce que l'on va faire et la manière dont on va mener les activités d'écriture. Ça peut être aussi une occasion de réfléchir, de décliner ces tâches en situations d'enseignement. Comment on met en œuvre, par des situations beaucoup plus précises, ces tâches. Ça peut être aussi des échanges sur les choix de mise en œuvre de certaines situations avec les objectifs. Je vous donne un exemple. Quand certains nous disent en CP, nous, on fait de la production de texte, il y a assez tôt dans l'année, c'est-à-dire qu'on demande aux élèves de sortir leur trousse et leur cahier d'écriture ou cahier de brouillon, et on leur demande de faire la liste, parce que c'est vrai que la liste, ça peut être une forme assez intéressante d'écriture, et on leur demande de faire de la liste de ce qu'ils ont dans leur trousse. Vous voyez ? et en tant que formateur, on est en train de penser à ce qu'il y a dans une trousse, crayon, stylo, gomme, taille crayon peut-être, hein, vous voyez, hein, même feutre, hein, ce genre de mots. Vous voyez la complexité d'un seul coup. Et puis, quand on interroge sur la mise en œuvre de l'activité, oui, on a de la production, vous voyez, de texte, hein, mais sans préparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, un travail de préparation avec les élèves sur ce qu'il y a dans une trousse, ce qu'on pourrait écrire, où on pourrait trouver ces mots. Vous voyez, il n'y a pas tout ce travail-là, hein, de préparation, et il n'y a pas de retour et de correction. Donc, chaque élève essaye d'écrire, et puis c'est très bien, on est sur le plaisir de l'écriture, vous voyez, hein, comme on trouve un petit peu parfois les joggings d'écriture. Je ne dis pas ça pour critiquer les joggings d'écriture ou cette pratique-là, mais vous voyez, peut-être ce qu'on est en train de travailler, c'est la dimension affective, même si... pour la liste de ce qu'il y a dans la trousse, j'ai quelques doutes parce que je ne suis pas sûre que dans tous les CP, les élèves soient capables d'écrire déjà, de faire la liste de ce qu'ils ont dans leur trousse. Mais on est vraiment sur cette interrogation-là. Quels objectifs on va se donner? Mais aussi, en termes d'occasion d'apprendre pour les élèves, on peut penser que si on n'est pas sur une vision très précise du processus scriptural, on a besoin de penser cette activité avec de la préparation et avec des retours, pour qu'elle soit rentable pour les élèves. Je mets, voyez, en cohérence, hein, les différents schémas. Je suis à la fin. Tout ceci, vous allez le revoir en fait dans les ateliers de demain, voir comment tout ça se décline après dans les différents outils. Merci donc pour votre attention.